Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
RTL, il est 7h44. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Olivier Mannoni. Il est l'un de nos plus importants traducteurs français. C'est lui qui s'est occupé d'historiciser le mal. C'est la version critique de Mein Kampf qui paraît aujourd'hui aux éditions Fayard.
Bonjour Olivier Mannoni.
Bonjour.
Et merci d'être sur RTL ce matin. Vous êtes spécialiste des plus grands auteurs allemands, Freud, Kafka, Zweig. Vous avez quelques 200 traductions au compteur et notamment nombre d'essais historiques sur le nazisme. L'ouvrage qui sort aujourd'hui, ce n'est pas une nouvelle édition de Mein Kampf. Les éditions Fayard et sa présidente Sophie Declauzé voulaient ce qu'on appelle un antidote au poison qu'est Mein Kampf. C'est pour cela que le livre est annoté, analysé, expliqué par une douzaine d'historiens. Mais c'est quand même vous qui avez eu la lourde tâche de traduire le manifeste politique de celui qui n'est pas encore le Führer. C'est vous qui avez manipulé cette matière brute. Vous avez travaillé 8 ans sur ce texte. D'abord, comment on ressort de 8 années de lecture et de traduction d'Hitler ?
Avec une certaine fatigue,
ouais.
Intellectuelle et technique, je dirais, parce que c'est un travail tout à fait particulier. Aujourd'hui, avec soulagement, parce que le travail qui a été fait par les éditions Fayard, par le directeur d'édition et son équipe, Florent Braillard, est absolument extraordinaire. J'ai un peu l'impression d'avoir manié de l'uranium radioactif pendant un certain nombre d'années.
De l'atome en fusion.
Et d'avoir des gens extrêmement compétents, extrêmement attentifs, extrêmement bienveillants qui m'ont construit un coffre protecteur autour. Et je suis très content que ça sorte comme ça.
Mais pourquoi il faut tant d'années? Pourquoi il faut 8 ans pour traduire Mein Kampf?
Alors déjà, il y a eu 2 années où moi j'ai travaillé à peu près tout seul, en fait, sans consigne, et où j'ai essayé de traduire ce texte en gardant les spécificités, donc déjà une certaine maladresse, pour me dire les choses gentiment, tout en le rendant quand même un peu accessible, c'est-à-dire permettre aux lecteurs français de voir ce qu'il y avait dedans. Au bout de 2 ans, Florent Braillard a pris la tête de l'édition et m'a demandé quelque chose qui, pour un traducteur, est absolument inouï, a priori, c'est-à-dire de rendre un texte dans l'état où je l'avais trouvé, c'est-à-dire de respecter l'illisibilité de Mein Kampf. Très concrètement, ça veut dire, par exemple, que l'accumulation de mots, l'avalanche de mots qu'on trouve dans chaque paragraphe de Mein Kampf, quand j'avais 6 adverbes, j'en avais enlevé 3 ou 4, parce que simplement, c'était impossible, et qu'en plus, il voulait rien dire. Et donc, on a repris le travail ensemble, avec une équipe d'historiens considérable, extrêmement compétente à la fois sur les problèmes linguistiques, sur l'histoire des mots qu'il traitait, pour produire cette deuxième version de la traduction, pour en fait revenir sur mon travail et revenir à un texte qui n'est pas un calque, mais qui est un texte brut, où on voit ce qu'ont lu les gens en Allemagne à l'époque.
Voilà, vous l'avez traduit donc tel quel, c'est une traduction donc fiable, mais ça veut dire qu'à l'époque où il a été traduit, parce qu'il a déjà été traduit d'abord en 1934, ça veut dire qu'ils ont fait semblant, les traducteurs de l'époque, ils ont enjolivé Hitler.
En 1934, il n'était même pas question de publier en France un texte qui aurait eu les qualités intrinsèques, au sens de propriété intrinsèque, du texte d'Hitler. C'était inouï. La traduction ne se faisait pas comme ça. On ne publiait pas des textes illisibles. Donc, il n'était même pas question de le faire. Et par ailleurs, en 1934, l'éditeur et les traducteurs avaient quand même pour but de rendre ce texte accessible pour qu'on sache ce que préparait Hitler, entre autres buts, parce qu'il y en avait d'autres.
Ce texte, vous diriez qu'il est donc indigeste. Dans quel sens il est indigeste? Est-ce que c'est dans le délire? Est-ce que c'est dans l'horreur? Est-ce que c'est dans l'aberration?
Il manipule des fantasmes qu'on connaît tous. Le fantasme de la grande invasion par l'étranger, le fantasme de l'autre qui est malsain, qui apporte des maladies et des dégénérescences, le fantasme d'une Allemagne pure, plus exactement d'une race aryenne pure, où ne resteraient que des individus sains, en bonne santé physique et mentale, des choses comme ça. Donc ça, c'est premier point. C'est une série de fantasmes doublés de visions géopolitiques plus ou moins fumeuses, mais qui annonce quand même très très clairement ce qui va se passer à partir de 1933 et encore plus à partir de 1939. Donc il y a une véritable vision qui est exposée.
Voilà, on comprend son projet de nazisme, on comprend son projet d'extermination des Juifs. Ou ça reste quand même un peu confus.
Le livre est marqué par un antisémitisme fanatique, extrêmement fumeux, c'est-à-dire qui repose sur tous les mythes trimballés au fil des siècles, et notamment à partir du 19e siècle. Il repose aussi sur des éléments sociaux-darwinisme qui viennent de Gobineau en particulier. L'extermination en tant que telle n'est pas annoncée, pour une raison très simple, c'est qu'elle n'est pas conçue en 1924. La conception de la Shoah, elle se fait grosso modo à partir du début de la guerre, et elle va prendre en 1941 sa forme définitive.
Mais est-ce que c'est un texte complotiste ?
C'est un texte dans sa forme totalement complotiste, tout à fait. D'abord parce que Hitler se pose lui-même et l'Allemagne en victime perpétuelle d'un certain nombre de complots, complots juifs, complots européens, complots français, etc., complots américains. Et dans sa structure même, il est complotiste. C'est-à-dire qu'il procède dans ses démonstrations par accumulation de faits totalement invérifiables, qui se terminent toujours par une conclusion extrêmement simpliste, brutale et primitive.
C'est ça le travail finalement de cet ouvrage, c'est-à-dire que quiconque, même avec une pensée confuse, une écriture très médiocre, peut produire le pire, peut produire des textes complotistes. Ça fait écho à aujourd'hui, non ?
Pour moi, oui. Si vous m'aviez demandé tout à l'heure ce qui m'est resté de ce livre, c'est peut-être cet écho permanent que j'ai dans la tête et qui me rend extrêmement pénible des choses que je lis ou que j'entends aujourd'hui, par exemple, à propos du Covid, dans la manière de penser, dans la manière d'écrire. Par exemple, quand vous essayez de discuter avec quelqu'un qui vous explique que le vaccin est un produit mortel inventé par Bill Gates, etc., quand vous essayez de discuter, vous avez exactement cette technique. C'est-à-dire que la personne va vous sortir 10 graphiques qui sont faux, des informations qui sont fausses, en avalanche, de telle sorte que chaque point ne soit ni vérifiable ni contestable, et à la fin, vous dire, vous voyez bien, vous vous êtes fait injecter votre deuxième dose hier, vous allez mourir, alors pas tout de suite, puisque vous êtes encore vivant malheureusement, mais dans 5 ans, dans 10 ans. C'est exactement cette technique-là.
Est-ce que vous diriez malgré tout que Mein Kampf, c'est un livre historique qui contribue à comprendre l'histoire?
Bien entendu, tout le projet d'Hitler, toutes les bases du projet d'Hitler sont dans ce livre, ça c'est très clair. Même si l'extermination des Juifs en tant que telle n'est pas formulée, exposée d'une manière événementielle, parce qu'elle n'est pas conçue à l'époque, tout le reste y est. Un antisémitisme virulent, une volonté d'exclure, de chasser tout ce qui n'est pas dans le projet, et ça ne s'arrête pas dans le livre aux Juifs. Ça concerne en particulier ce qui s'est passé à partir de 38, donc en Allemagne, l'extermination des malades mentaux et des handicapés, qui a commencé beaucoup plus tôt que la guerre même, tout ça est déjà en germe dans le livre, on le voit très très bien. Et son projet politique, et notamment en politique internationale, est lui très clairement exposé. Il y a une volonté belliciste très claire.
L'historien Joanne Chapoutot dit que c'est une perte de temps, que c'est tellement pauvre intellectuellement que ça n'a aucun intérêt, que ça érige Mein Kampf en une bible du nazisme qu'il n'est pas.
C'est un document historique, ça a été une bible, et le fait de travailler dessus et de le publier comme le publient les éditions Fayard aujourd'hui, fait précisément que ça cesse d'être une bible. Ça devient un document pour les historiens, un document sur lequel on a travaillé, un document dont les arguments, les mensonges qui sont innombrables sont démontés les uns après les autres avec une précision absolument fantastique par les historiens qui ont travaillé sur ce sujet en Allemagne et en France. Et donc oui, ça cesse d'être une bible pour devenir un document de travail.
Un document de devoir de mémoire ?
Aussi, bien entendu.
Ça va jusque-là ?
Bien entendu, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé en Allemagne à l'époque et puis ailleurs aussi ensuite sans connaître la pensée qui a fondé des actes, qui a fondé une politique et qui a fondé plus tard une politique d'extermination et de destruction.
Mais qu'est-ce que vous dites, vous, à ceux qui sont choqués par cette réédition ?
Déjà, je crois qu'il n'y en a plus beaucoup par rapport à quelques années. Je pense que beaucoup, beaucoup de gens qui étaient sinon choqués, du moins dubitatifs, ont été convaincus en voyant la forme du projet, les précautions qui ont été prises. Et ensuite, je dis simplement qu'il faut aussi savoir regarder la réalité en face, et qu'effectivement, on a été capable, en 1924-25, d'écrire un livre comme ça, d'écrire un livre de haine, d'écrire un livre qui fonde l'exclusion, qui annonce par exemple que l'Allemagne va être... les Allemands vont être grands remplacés par les Juifs, et que ça peut recommencer, que connaître ces textes sources qui ont fondé l'horreur permet aussi de lutter contre les germes de l'horreur aujourd'hui.
Qui va lire ce livre à votre avis ? Parce qu'il est uniquement sur commande, on le rappelle, il coûte 100 euros.
Alors, on le sait un petit peu parce que l'Institut für Zeitgeschichte en Allemagne, qui a vendu 80 000 exemplaires du livre, a fait des sondages chez les libraires et pour savoir qui c'était. Et en fait, c'est en très grande majorité des universitaires, des étudiants et des professeurs qui ont acheté le livre pour leur travail, pour leurs cours, pour leur documentation personnelle. Voilà. Aucun fanatique de Hitler ne va acheter un pavé pareil, avec en plus chaque morceau de texte encadré par 40 notes qui démentent ce qui est indiqué.
Ça a vocation à être étudié au lycée ?
Certainement, certainement. J'ai fait plusieurs interventions ces dernières années dans les lycées pour parler de cette période, pas spécifiquement de Mein Kampf. Il y a chez les jeunes lycéens en particulier une très grande volonté de savoir et de comprendre ce qui a pu se passer à ce moment-là.
Ça les touche, ça les intéresse, ça leur passe pas au-dessus de la tête.
Ça les touche parce que c'est une expression phénoménale de la violence.
Merci beaucoup Olivier Mannoni. Il faut rappeler que Historiciser le mal, une édition critique de Mein Kampf chez Fayard est disponible donc sur commande. Et tous les bénéfices iront à la fondation Auschwitz-Birkenau.
Une expression phénoménale de la violence. J'ai l'impression d'avoir manié de l'uranium pendant 8 ans. C'est un document historique. On voit ce qu'ont vraiment lu les lecteurs allemands lors de sa parution en 1934. Vient de nous dire Olivier Mannoni. Le livre paraît donc aujourd'hui aux éditions Fayard. Merci à tous les deux. L'intégralité de l'entretien, comme chaque jour.